Un peu de musique, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, messieurs et mesdames, pour commencer mes expériences, j'aurais besoin d'un mouchoir blanc. L'un de ces messieurs voudrait-il me confier un mouchoir? Monsieur? Oh, pardon, vous êtes enrhumé, vous tenez à le garder. Très bien. Ah, monsieur, je vous remercie. Maintenant, j'aurais besoin d'un foulard. Peu importe la couleur, bleu, vert, jaune, pourvu qu'il soit rouge.
Benita Anguinet, 1819-1887, la reine de l'illusion. Première partie, une magicienne parmi les magiciens.
Alors on voit là une photographie qui représente, j'imagine, une scène de théâtre avec tout l'appareil et tout le décor mis en place par Benita pour une de ses représentations.
Jean-Claude Dion, historien.
On est face à un décor avec énormément d'éléments de mobilier, beaucoup de bibelots, énormément de chandelles. Un lustre aussi qui est accroché, qui fait plus penser à un décor de salon d'intérieur qu'à un décor de théâtre.
La scène de magie qu'on voit là, vraiment le décor de magie, il ressemble énormément à la scène de Robert Houdin.
Leslie Villiaume, historienne.
Et donc, c'est une inspiration directe. Alors après, Benita Anguinet s'en est jamais cachée. C'est une femme qui interprète la magie, mais c'est pas forcément une créatrice à proprement parler. Et donc, elle reprend vraiment tous les codes de la scène.
Le rideau se lève et au lieu de cet assemblage trompeur d'instruments de physique, le plus souvent équivoque, de diableries insignifiantes et de lourdes tables revêtues jusqu'à leurs pieds de tapis fanés, laisse voir un ameublement complet en bois doré, style Louis XV. Candélabres à bougies, flambeaux à pendants de cristal de roche, rien n'y manque. Puis apparaît une femme, toute belle de sa personne et d'une toilette de soirée d'un goût irréprochable.
Article paru dans L'Industriel de Saint-Germain-en-Laye en novembre 1859.
Ce qui est frappant dans le parcours de Benita Anguinet, c'est sa longévité, qui est assez remarquable par rapport à ses contemporains. Elle commence sa carrière à l'âge de 7 ans sur la scène de son père et sa carrière va durer pendant une cinquantaine d'années.
Pierre Taillefer, co-auteur de Mademoiselle Benita Anguinet, la première magicienne.
Elle a par ailleurs possédé son propre théâtre à Paris, sa propre salle de spectacle au cœur du Bois de Boulogne. Elle a eu un succès international, en particulier en France et en Espagne, mais également jusqu'en Algérie. Et enfin, c'était une chef de troupe, une directrice de compagnie. C'était elle qui occupait le haut de l'affiche et elle s'entourait d'assistants pour ses spectacles. On peut préciser que Benita Anguinet est issue d'une famille d'épingliers parisiens sous l'Ancien Régime. Donc ses grands-parents, arrière-grands-parents fabriquaient des épingles, des petits meubles, ce genre d'accessoires d'intérieur. Et au moment de la Révolution, son père va changer complètement de carrière. Son père, qui a été formé comme épinglier, devient acteur à Bordeaux. Il joue des rôles vraiment de second ordre, des rôles de figuration au Grand Théâtre de Bordeaux. Il est veuf et il rencontre sa seconde femme, qui est d'une famille protestante de Bordeaux. Et c'est donc à Bordeaux que va naître Benita Anguinet en 1819. Et dans les années qui suivent, son père, qui était acteur à Bordeaux, devient illusionniste aux côtés du plus célèbre illusionniste de cette époque, qui s'appelait Louis Comte, qui avait un théâtre à Paris. Il remplace Louis Comte lors des séances à domicile, donc des séances privées d'illusionnisme. Et ensuite, il entreprend des tournées à travers la France. Et c'est dans ce cadre-là que Benita Anguinet fait ses débuts sur scène à ses côtés.
L'histoire de la magie au sein des spectacles au XIXe siècle, c'est l'histoire en fait d'une promotion, d'un spectacle qui au départ est plutôt un spectacle de rue, un spectacle forain, qui appartient à une catégorie qu'on appelle les spectacles de curiosité, qui n'ont pas en fait le droit au mot théâtre. Et petit à petit, donc, ces spectacles vont quitter les rues, les foires, pour venir s'installer dans des vrais théâtres, soit des petits théâtres qui sont spécialement dédiés à un spectacle de magie, soit l'insertion de tours de magie dans des pièces de théâtre. Donc c'est cette idée vraiment d'une promotion. Les magiciens, d'ailleurs qui au départ s'appellent plutôt des physiciens, deviendront des magiciens, des prestidigitateurs, et donc revendiquent une véritable identité artistique et être reconnus comme de véritables artistes.
Effectivement, au 19e, la prestidigitation, ça peut être un ascenseur social. Peut-être ce qui va justement différencier le prestidigitateur des magiciens précédents, ça va être cette volonté de s'élever socialement. Alors, quand je dis s'élever socialement, c'est-à-dire d'avoir une image respectable, déjà. Donc, on n'est pas un saltimbanque, on n'est pas un arnaqueur. L'artiste devient déjà un homme du monde. On a de la magie sur des scènes assez prestigieuses. Vous avez toutes les classes sociales qui assistent au spectacle de magie. On le voit très bien avec le prix des places. Ça peut être bon marché comme extrêmement cher. Il y a vraiment des fois des prix qui rivalisent avec les plus belles places d'opéra. Et pour revenir au cas de Benita en Guinée, c'est vrai qu'elle a les filles de magicien, mais son père, c'est pas un magicien très connu, en fait. C'est pas son papa qui lui a permis d'avoir la carrière qu'elle a eue. Pour le coup, l'élève a dépassé le maître.
Au milieu du 19e, les femmes n'étaient pas assistantes des illusionnistes. C'était un rôle qui était traditionnellement endossé par les hommes, ce rôle de servant de scène. Donc Benita en Guinée, quand elle jouait déjà en tant qu'enfant un rôle auprès de son père, avait sa propre partie, ses propres numéros dans le spectacle, mais elle n'intervenait pas comme assistante proprement dite. Et donc vers 1840... on observe un changement de nom sur l'affiche. Le nom principal, qui était celui d'Antoine Anguinet, son père, devient celui de Benita Anguinet. Et son père, pendant encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il a continué à agrémenter le spectacle de sa fille d'un numéro de ventriloquie pour varier les plaisirs.
Benita Anguinet a une formation aussi de comédienne, comme son père en fait. En quoi ça peut l'aider aussi dans son métier et pourquoi elle a laissé tomber cette partie de sa formation ?
Donc son aisance sur scène est évidente dans la mesure où elle est montée sur les planches dès l'âge de 7 ans, donc c'était son univers. Elle était dans son monde sur scène, donc ça explique ses talents d'actrice qui sont arrivés sans doute assez naturellement. Cependant, c'est vraiment une activité accessoire dans sa carrière. On a recensé une dizaine ou une quinzaine d'apparitions dans des pièces de théâtre, alors qu'on compte des milliers de représentations en tant qu'illusionniste. Donc pour elle, c'est toujours resté une activité accessoire. Et on peut penser aussi que c'est dû à la volonté de s'intégrer plus facilement dans la programmation des théâtres, puisque ces artistes qui tournaient à travers la France devaient louer la salle de spectacle quand elle était vacante, ou parfois coexister avec la troupe théâtrale privilégiée qui était dans la ville. Et donc pouvoir jouer dans une pièce de théâtre avec la troupe théâtrale privilégiée, c'était une manière de mettre un pied dans la porte et de proposer une partie de théâtre et en seconde partie un spectacle d'illusionnisme. Et peut-être une part de stratégie pour avoir accès aux salles de spectacle.
Monsieur, vous devez avoir un foulard rouge. Merci, monsieur. Messieurs, je mettrai ce mouchoir blanc sur le coin de cette table à droite. Et ce foulard rouge sur le coin de celle de gauche. Voici deux vases. Comme vous pourriez supposer qu'ils sont à double fond, je vous prierai de les examiner. Vous voyez, messieurs, que ces vases sont très ordinaires. Je prends le mouchoir blanc que voici et je le dépose dans ce vase. Je prends également ce foulard et je le place dans celui-ci. Maintenant, pour les isoler le plus possible l'un de l'autre, je vais déposer les deux vases sur chacune de ces tables.
Extrait de la revue de fin d'année du Théâtre du Palais Royal, 1857.
La magie que pratiquait Benita, c'était vraiment une adresse au spectateur.
Valentine Losseau, magicienne et anthropologue.
C'est quelque chose qui est en interaction constante avec le public, qui se joue dans une très grande proximité. C'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui la magie de salon, qui va utiliser des objets du quotidien, des objets empruntés au spectateur aussi très souvent, et qui demande cette intimité, cette proximité, cette relation avec les spectateurs. C'est pour ça que le travail de Benita, c'était beaucoup des qualités oratoires, des qualités de charisme, des qualités de communication avec les spectateurs.
Ce qu'on peut préciser, c'est qu'à l'époque, les spectacles d'illusion étaient des spectacles très longs par rapport aux standards actuels. C'était des spectacles de 2 à 3 heures qui étaient entièrement parlés. Et donc, c'était des one-man show, des one-woman show avant l'heure. Benita Anguinet devait tenir son public en haleine par le pouvoir de sa voix, par le pouvoir de ses gestes, de ses illusions pendant 2 à 3 heures.
Les acteurs au 19e siècle ont tendance à jouer à l'avant-scène pour le public, ne serait-ce que parce qu'on est à une époque où il n'y a pas de micro, il faut se faire entendre, et puis donc il faut être éclairé par la fameuse rampe, hein, cet éclairage par en dessous qui les éclaire bien. En même temps, les acteurs n'ont absolument pas le droit de s'adresser au public. Et au contraire, le magicien, lui, il apostrophe directement les spectateurs, ce qui veut dire aussi d'ailleurs que dans l'absolu, le spectacle de magie se déroule dans des lieux plus petits, justement pour reprendre cette proximité qu'on n'a pas pour le théâtre. Et donc là, c'est une grande différence entre les deux types de spectacles.
Les illusionnistes avaient pour habitude d'installer à l'avant-scène une sorte de plateforme qui s'avançait dans le public, qui enjambait les premiers rangs de fauteuils. Et donc cette plateforme était essentielle dans la mise en scène de l'illusionniste. Et Benita Anguinet, par deux fois, en traversant les feux de la rampe, est victime de l'embrasement de sa robe. Et on connaît deux incidents en France et en Espagne qui ont trait à sa tenue.
Par une coquetterie féminine qui lui sied à merveille, Mademoiselle Benita a fait, pour la seconde partie de sa soirée, une nouvelle toilette plus fraîche et plus riche encore, s'il est possible, que la première, et qui n'a pas peu contribué, en outre de la juste appréciation de son talent, à la chaleur des applaudissements qui ont accueilli sa rentrée. C'est donc, sous tous les rapports, le plus charmant spectacle en ce genre qui, dans notre ville, se soit jamais offert aux yeux du public.
Souvent, les commentateurs insistent sur la toilette de Benita Anguinet, les robes qu'elle porte, y compris la matière des robes qu'elle porte.
C'est quelqu'un qui sait comment il faut se présenter. Et si on compare avec les magiciens de l'époque, c'est vrai qu'elle est très cohérente en fait, par rapport à ce qui se fait. Par exemple, on le voit là sur la gravure, son costume, juste le costume de scène. En fait, elle fait comme les hommes, elle se met en habit de soirée. C'est juste que comme c'est une femme, c'est forcément une robe, mais en fait, elle va pas chercher à faire des fioritures ou avoir un costume un peu bizarre, voyez. Enfin, le goût de l'époque, quand même, c'est plutôt de se mettre en habit de soirée. En fait, c'est très curieux, mais elle se démarque en ne se démarquant pas. Ça paraît paradoxal, mais c'est justement en prenant tous les codes de ce qui fonctionne à l'époque que, en fait, on va parler d'elle, parce que justement, elle coche toutes les cases. Donc ça, c'est intelligent, oui.
Une charmante représentation a eu lieu mardi dernier au théâtre où la foule s'était rendue. Mademoiselle Benita Anguinet, prestidigitatrice fort habile et surtout fort jolie, ce qui ne gâte jamais rien, a donné une séance de ses exercices. Certes, nous avons vu beaucoup de physiciens, de nécromanciens et de sorciers dans notre vie. Nous avons admiré Comte, au passage Choiseul, Bosco, au théâtre Montansier, Philippe, au bazar Bonne Nouvelle, et Robert Houdin, dans sa bonbonnière du palais jadis royal. Eh bien, selon nous, Mademoiselle Anguinet éclipse tous ses enchanteurs. Et mardi, elle a provoqué pendant plus de 2 heures notre plus sincère admiration, grâce à son adresse et à son babil plein d'esprit et de bon goût. Allez voir et revoir Mademoiselle Benita Anguinet.
Article paru dans L'Écho des Vallées en septembre 1849.
Avant de connaître la fortune à Paris, dans son théâtre du Pré-Catelan, Benita Anguinet est une artiste itinérante, comme il y en a des centaines à cette époque-là en France. Elle va de théâtre en théâtre, et au gré de ses succès, elle reste plus ou moins longtemps dans les villes. On a pu retrouver une douzaine de lettres qu'elle a adressées aux municipalités pour se produire, et ensuite la comparaison avec les sources de presse ou avec les affiches qu'on retrouve parfois dans les archives permet de savoir combien de fois elle a joué dans la ville et si elle a rencontré un grand succès.
Alors, pour évoquer le Pré-Catelan, qui vraiment s'insère complètement dans ce développement des lieux de loisirs, de divertissement qui caractérise le Paris du Second Empire. Un Paris, on le sait bien, qui est complètement remodelé par le baron Haussmann. Donc dans ce Paris, les lieux de spectacle et de divertissement sont très nombreux et aussi sont liés à un autre élément qui est la présence de la nature. On a doté la capitale de deux grands parcs, deux grands bois, le bois de Boulogne pour les classes aisées et le bois de Vincennes plutôt pour les classes populaires.
Le Précatelan, c'est un parc d'attractions pour la haute société parisienne qui se trouve aux portes de Paris, au cœur du bois de Boulogne. C'est un parc de plusieurs hectares qui abrite une quinzaine de chalets. Et ces chalets, qui sont faits de bois, de toile, qui sont partie en dur et partie éphémère, abritent des spectacles, des restaurants, des concerts et des attractions en tout genre. Et les Parisiens y accourent à pied, à cheval, en voiture hippomobile, pour assister à des spectacles ou des concerts qui sont souvent des formes assez courtes, donc plus courts que les spectacles que Bénitat en Guinée avait l'habitude de donner dans les théâtres où elle donnait des soirées complètes de 2 à 3 heures. Là, Bénitat en Guinée, qui a son pavillon propre qui s'appelle le Théâtre de Magie, donne des spectacles qui font sans doute 45 minutes environ. C'est le seul cas d'un théâtre de magie possédé par une femme illusionniste au 19e siècle.
Le nez coupé, les pyramides d'Égypte, le parapluie au foulard, la lyre d'Apollon, la cuisine diabolique.
Le fait que Bénitat ait son propre théâtre, c'est vraiment pour elle un coup de chance exceptionnel. Ça veut dire effectivement qu'elle a su convaincre les promoteurs du parc de lui faire confiance. Et c'est vrai que je pense que le début de son activité au Précatelan marque le sommet de sa carrière en France. Et puisqu'encore une fois, elle a été au bon moment, au bon endroit. Et j'imagine aussi qu'elle a dû faire un fort investissement pour pouvoir avoir ce théâtre. Et ça montre l'importance qu'elle a dans le monde des spectacles au milieu de la décennie 1850.
Avant son apparition sur scène au Précatelan, Bénitat en Guinée était davantage connue en région ou à l'étranger qu'à Paris. Elle ne s'était pratiquement pas produite à Paris. Et donc, c'est une des révélations du Précatelan et qui va lui apporter une certaine notoriété et qui va faire accourir tout Paris à ses séances. Elle s'y produit en continu pendant 3 saisons, en 1856, 57 et 58. Ensuite, elle passe la main à d'autres illusionnistes, à un moment où le parc commence déjà à avoir des difficultés financières, et il finit par fermer ses portes en 1864, donc moins de 10 ans après sa création.
Le nez coupé. Dans cet effet, Mademoiselle Bénitat coupe le nez à un enfant avec un rasoir. Puis, au bout de quelque temps, on commence à s'inquiéter du sort du pauvre petit. Mademoiselle Bénitat fait alors un signe et le nez, mieux portant que jamais, reparaît dans sa splendeur.
Le parcours de Bénitat en Guinée, il est spectaculaire à plus d'un titre, parce qu'elle était femme dans un environnement et une époque où l'illusionnisme était quasiment exclusivement masculin. Aussi parce qu'elle a su donner une personnalité à ses spectacles. À cette époque, les artistes illusionnistes se ressemblent, les tours se ressemblent, le répertoire est peu varié, et elle a su se faire un nom. Et je pense que le public sortait de ces spectacles en se disant « On a vu un spectacle de Bénitat en Guinée et pas seulement un spectacle d'illusionnisme. » Et puis elle a même été caricaturée, ce qui était à son époque un signal positif de notoriété. Et puis ce qui est marquant dans sa carrière, c'est qu'elle a renouvelé son répertoire en fonction des tendances. On sent que c'était vraiment une artiste passionnée qui était en veille constante des techniques, des effets de son époque.
Les surprises de Fortunatus. D'un chapeau qu'on lui avait prêté, elle avait extrait des centaines de journaux, deux colombes, une layette d'enfants, d'énormes bouquets et enfin des jouets qui se distribuaient dans la salle. Au nombre de ces jouets se trouvait une petite poupée à ressort. 3 ou 4 petites filles se disputèrent la poupée. Et enfin, celle à qui elle échut s'aperçut que, dans la bataille, la pauvre poupée avait eu un bras cassé. L'enfant tendit alors son jouet vers la physicienne et la pria naïvement de souffler dessus pour la raccommoder.
Au moment de son succès parisien, le journal Le Ménestrel, qui est une revue musicale, publie une partition qui s'intitule « Benita la magicienne ». On sait qu'elle était jouée au Pré-Catelan par l'orchestre du Pré-Catelan en parallèle des séances. On jouait la partition de Benita la magicienne dans le kiosque à côté, dans le Pré-Catelan, et qui permettait d'orienter les spectateurs vers son théâtre. Cette musique, c'est une polka mazurka qui a été composée par une femme compositrice qui s'appelle Laure Micheli. Et c'est une musique qui est tout à fait entraînante, légère et joyeuse.
J'ai sous les yeux ce qu'on appelle un frontispice de partition. C'est une partition qui s'appelle « Benita la magicienne ». Donc on est typiquement dans un produit dérivé du spectacle. Et donc là, on est dans une partition publiée par l'éditeur Eugel, un très grand éditeur de musique. Et donc, on peut vraiment considérer qu'on a une lithographie qui représente Benita de façon très fidèle, ce qui nous permet d'avoir à nouveau une image de son costume. Un costume très raffiné avec une crinoline et puis des petits nœuds. On la voit, elle s'appuie sur une table où on va retrouver un certain nombre de ses ustensiles de spectacle, mais c'est quand même dans la pénombre à l'arrière, donc c'est vraiment elle qui est mise en avant. Et puis, elle a ce geste, on a l'impression qu'elle est en train de s'adresser à son public. Elle lève la main et elle leur dit « Attention, vous êtes en train de voir un bouquet, dans un instant, ça sera autre chose, etc. » Donc, on la voit en action. Et en tout cas, le fait qu'un éditeur aussi important que Gel ait édité cette polka mazurka montre que c'est vraiment une vedette importante.
Le chou mystérieux. Les pilules du diable. La pêche miraculeuse. La bouteille inépuisable. La colonne Vendôme.
Son répertoire, je pense qu'il y a des choses qui sont encore hyper présentes aujourd'hui.
Claire Chastel, magicienne et comédienne.
Faire choisir une carte, la retrouver en haut d'une colonne. Bon, on ferait peut-être pas en haut d'une colonne, mais on ferait autrement. Mais c'est des grands classiques en fait. Et alors, pour parler de son tour phare, le chou mystérieux.
Elle empruntait un gant ou un foulard dans le public qu'elle faisait disparaître. Et ce chou qui trônait depuis le départ sur la table, elle le prenait, l'ouvrait en deux. Au milieu du chou, on trouvait un pamplemousse. On coupait le pamplemousse en deux, on trouvait un citron. Dans le citron, on trouvait un œuf. Et dans l'œuf, on retrouvait la bague ou le foulard emprunté. Et ce tour, il est étonnamment moderne dans son répertoire, puisque son répertoire est constitué de tous les appareils, les automates de physique amusante du milieu du 19e siècle, qui n'avaient aucune équivalence dans le monde réel. C'était des appareils fabriqués uniquement pour des spectacles de magie. C'était des appareils irréels.
Donc ça fait partie d'un classique, mais qui a été complètement revisité par cette femme pour en faire un truc très étrange et en même temps inédit et très inattendu dans cette esthétique. C'est vrai qu'avoir un chou au milieu de tous ces objets un peu bourgeois, souvent sur ces scènes, en plus à l'époque, on était vraiment sur des grands objets avec des chandeliers tout en étain, etc. Et puis en fait, on a un chou posé, c'est un peu un drôle de truc, quoi.
Maintenant, messieurs, à ma droite se trouve le foulard, voici, et à ma gauche, le mouchoir blanc. Voilà. Allez, la musique !
À l'apogée de sa carrière parisienne, au moment où Benita Anguinet se produit au Pré-Catelan, le théâtre du Palais Royal, dans sa revue de fin d'année, qui était un type de spectacle très en vogue à cette époque, qui donnait un aperçu de tous les événements importants, de toutes les personnalités saillantes de l'actualité, propose un spectacle à Noël 1857 qui s'intitule « Les Vaches Landaises » et dont un acte est consacré entièrement à une parodie du spectacle de Benita Anguinet.
Et donc le fait que Benita se retrouve dans une revue du Palais Royal, c'est vraiment là, encore mieux que la partition, c'est vraiment le signe qu'elle a été l'attraction de l'année. Elle est jouée en travestie par un acteur très important qui s'appelle Brasseur. On la voit en train de faire un spectacle. Alors comme on est dans une parodie, tous ses tours vont rater.
Benita Anguinet, dans cette pièce de théâtre, est parodiée sous le nom de Ninita Anguillette. Elle présente un certain nombre de tours de magie, dont certains correspondent exactement au répertoire qu'on lui connaît à cette époque. Un certain nombre de grands tours de son répertoire sont tournés en dérision dans cette pièce de théâtre.
Pour avoir lu énormément de revues de fin d'année, j'ai vu assez rarement des magiciens y apparaître. Donc c'est vraiment le signe qu'elle était importante.
Monsieur le souffleur, votre boîte. Fermez votre boîte. Comment ? Polisson.
Dans ce texte, il y a beaucoup d'allusions au fait qu'elle refuse à les avances, elle refuse de s'avancer à l'avant-scène pour pas que le souffleur puisse apercevoir, jeter un regard sous sa robe, etc. Donc ça nous laisse penser que cela faisait partie de sa personnalité, de s'affirmer comme indépendante sur scène et dans la vie.
Très honnêtement, je ne suis pas certaine que sa carrière aurait été aussi longue si elle avait été mariée. Parce que ça, c'est pareil, c'est un phénomène qu'on comprend très bien en lisant juste les sources. Alors quand je dis les sources, ça peut être la presse, mais c'est aussi les affiches de spectacle. Quand on voit la mention d'une femme en magie, très souvent, en fait, c'est la femme d'un magicien. Alors, ce n'est pas forcément son assistante à proprement parler. Elle peut des fois prendre autant de place que son époux et elle peut avoir ses tours à elle, mais elle est quand même rattachée à son époux. Et donc, dans la communication, on va au mieux avoir la mention du couple et au pire, on a même des fois que l'homme, en fait, et on ne fait pas forcément mention de la femme ou alors en tout petit caractère. Voilà. Et Benita, c'est vrai qu'elle a eu en tout cas cette chance d'être reconnue, en fait, juste en tant qu'artiste solo, quoi. Et je ne pense pas que si elle avait été mariée, elle aurait pu avoir la même notoriété. Parce qu'en fait, ça fait partie de ses, bizarreries. Le fait qu'elle soit encore célibataire, à une époque où quand même ça ne se fait pas vraiment d'être célibataire, et qu'elle ose avoir une vie professionnelle en son nom, c'est déjà assez singulier. Et je pense qu'en fait, ça la sert plutôt que ça ne la dessert.
De la magie.
D'où vient tout ce micmac?
Bonsoir à notre sac. Que nous fait cette niche?
Un lutin qui nous triche.
Qu'en dis-tu?
Disparu.
Disparu.
Qu'en dis-tu? Disparu.
Disparu.
Allons, c'est le tonnerre. Il prend bien son moment.
Benita Anguinet, la reine de l'illusion. Première partie. Une magicienne parmi les magiciens. Avec Pierre Taillefer, Jean Claudion, Leslie Williaume, Valentine Losso et Claire Chastel. Lecture. Anne de Peufeillou, Alexandra Gentil. Documentaliste Ina, Samia Jedi. Recherche musicale, Antoine Buyoz et Yacine Dumont. Prise de son, Raymond Alboui et Marie Le Peintre. Mixage, Manon Houssin. Chargée de production, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Une histoire particulière d'Hélène Carbonel, réalisée par Asia Weber. Nous sommes en 1857. Benita Anguinet est la star de la magie à Paris. Pourtant, elle décide de tout quitter pour partir en Espagne. C'est là qu'elle va terminer sa carrière qui ne laisse aujourd'hui aucune trace. C'est un drôle de tour de magie, vous ne trouvez pas ? La réponse n'est pas dans les cartes, ni même dans un chou. Écoutez plutôt l'épisode 2.